Ok, nous n'avons plus d'excuses. Bonjour et bienvenue pour cette table ronde dont le titre est « Les paradigmes scientifiques peuvent-ils être des modèles narratifs ?» si je me souviens bien. À vrai dire, je me souviens sûrement pas bien, mais ces mots-là, plus ou moins, dans ce... voilà. Donc, tiens, je vais faire les choses à l'envers. Donc aujourd'hui, pour discuter de cette question, et peut-être pour la démonter et en faire tout un tas de petits morceaux qu'on remontera ensuite, nous avons de droite à gauche pour vous, Gérard Klein, économiste, il y a longtemps peut-être, écrivain de science-fiction et directeur de collection, toujours directeur de collection, Ailleurs et Demain. Donc je crois qu'il n'y a pas besoin d'en parler longtemps parce que vous le connaissez tous. Raphaël Granier de Cassagnac, physicien des particules, qui travaille donc à un laboratoire qui est à l'École Polytechnique, c'est ça, hein, un laboratoire du CNRS qui est situé là-bas, à l'École Polytechnique, mais aussi romancier, qui a écrit deux romans de science-fiction récemment parus. Et Marc-Antoine Mathieu, auteur de bande dessinée, en particulier la série des aventures de... Julius Corentin Hacquefac, prisonnier des rêves, dont nous nous sommes récemment délivrés, comme vous le voyez. Donc il va falloir parler du thème qu'on nous a imposé. Les paradigmes scientifiques peuvent-ils être des modèles narratifs? Oui, voilà. Mais tais-toi, toi. Ça, c'est... Les machines font des tas de choses à notre place, mais parfois trop. Donc peut-être qu'il faudrait dire deux mots sur ce que veut dire ce titre un petit peu peut-être abstru. Je suis sûr que mes camarades là dans la table ronde en diront plus que moi. Paradigme scientifique, c'est une expression reprise à Thomas Kuhn, historien, philosophe des sciences, qui est l'idée qu'il y a des modèles dominants dans certains secteurs scientifiques, dans certaines sciences, et que parfois ces modèles dominants posent problème et qu'un nouveau modèle s'impose. Et donc il a utilisé le mot de paradigme pour désigner ces modèles. Je prends un exemple. Jusqu'au 19e siècle, la mécanique newtonienne marchait très bien, force, accélération, on calculait les orbites des planètes, tout allait bien. Il y avait quelques petits problèmes avec la vitesse de la lumière, et Einstein a introduit la théorie de la relativité, disons, restreinte au début, qui a fourni le nouveau paradigme, qui a agrandi le champ auquel on pouvait appliquer la théorie, et qui expliquait des phénomènes qui n'étaient pas explicables dans le cadre précédent. Ok, bon, ça c'est... C'est ça, le rapport avec la science-fiction existe dans la mesure où la science-fiction, parfois... alors, qu'est-ce que c'est qu'un modèle narratif, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle narratif? C'est une question beaucoup plus... voilà. Question beaucoup plus délicate, parce que c'est beaucoup moins bien défini. Y a pas, vous n'avez pas trouvé ça dans Wikipédia. Mais je pense qu'il y a deux manières d'interpréter cette question. C'est-à-dire, modèle narratif, on peut penser à une œuvre dont le sujet est un changement de paradigme. Au sens propre, la science-fiction a parfois mis en scène des scientifiques faisant des découvertes et agrandissant leur champ de vision intellectuelle et parfois cosmique en faisant cette découverte. Dans un sens plus abstrait, on peut considérer que la manière dont fonctionnent certaines histoires de science-fiction ou pas de science-fiction d'ailleurs, hein, des romans policiers par exemple, qu'il s'agisse de science ou pas, suit certains des mécanismes, soit du processus de recherche et de découverte qu'on a en science, soit du processus narratif qui existe en science quand, forcément, un scientifique doit communiquer son travail à d'autres scientifiques, qui est en général la manière de le valider. Évidemment, c'est un vaste ensemble de questions. Et peut-être que Gérard, que je vois frétillant sur le micro, aura quelque chose de plus à dire là-dessus.
Ce que je voudrais commencer par dire, c'est que dans un certain nombre de cas, et peut-être un assez grand nombre d'ailleurs, les auteurs de science-fiction transgressent délibérément et en connaissance de cause des paradigmes scientifiques bien établis. Je pense évidemment à la relativité et à la limite que pose la vitesse de la lumière, qui est introduite par la relativité, mais qui, sauf erreur, était déjà présente dans les équations de Maxwell sur la lumière. Alors, les quelques scientifiques un peu rapides dans leur jugement balaient sous la carpette cette forme de science-fiction en disant « Mais c'est pas sérieux, on peut pas voyager plus vite que la lumière, enfin, etc. » En fait, la quasi-totalité des auteurs que je connais, j'en ai publié quelques-uns, savent très bien qu'on ne peut pas le faire. Mais précisément, le modèle narratif introduit la licence scientifique, cette fois, et permet de s'amuser à faire semblant d'ignorer, de négliger le paradigme scientifique. Je crois que c'est un premier point. Et souvent, cette transgression fait l'objet d'un jeu, si bien que les écrivains avec des mots se sont efforcés de décrire des méthodes plus ou moins tordues pour aller plus vite que la lumière, si bien que certains physiciens en retour, je pense à Michel Kaku par exemple, se sont pris au jeu et ont cherché des méthodes qui permettraient, sans transgresser leur relativité, de voyager durant des durées humaines de vie entre les étoiles.
Et toi-même, en tant qu'auteur, on peut préciser quand même le Gambit des étoiles, c'est celui-là, hein, dans lequel tu prends le défi de justement renverser le paradigme science-fictionnel qui est de dire on va dépasser la limite de vitesse de la lumière et d'essayer d'imaginer une structure politique et économique interstellaire qui respecte ce décalage-là, ce qui n'est pas sans difficulté.
Tout à fait, je n'avais pas encore à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 18 ans quand j'ai écrit ça, je n'avais pas assez d'audace.
Oui, mais on peut dire que là, tu as utilisé un paradigme scientifique comme base à ta narration un peu. Tu l'utilises pour la narration. Mais j'ai l'impression que et puis je connais très bien l'œuvre de Marc-Antoine, donc je pense qu'on va dans cette direction-là. On parle de modèle narratif, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas utilisé pour raconter une histoire, quelque chose de scientifique, c'est quelque chose que les écrivains de science-fiction font tout le temps. Ils s'emparent de supercorps, de la relativité, de n'importe quel élément scientifique, et puis ils essayent d'inventer une histoire qui va avec. Ça influe pas a priori sur le modèle narratif, qui pour moi relie plus le fond à la forme, en fait. Je pense que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut, par exemple, à partir de la relativité restreinte, c'est intéressant, essayer d'imaginer un livre objet ou même pas un livre d'ailleurs, qui est vraiment basé sur cette chose-là. Alors, je ne sais pas si c'est possible. On pourrait imaginer, par exemple, jouer à fond sur le fait, par exemple, que si quand on communiquera avec, quand il y aura des gens sur Mars, il y aura un délai de communication simplement parce que la vitesse de la lumière est finie. Donc on pourrait peut-être imaginer des formes dans la forme même, hein, pas seulement dans l'histoire, dans la forme même des choses qui sont liées à ça. Et moi, un auteur chez qui je vois énormément de ponts entre la science et le paradigme scientifique et le modèle narratif, c'est justement Marc-Antoine, qui dans ta forme de BD, tu intègres tout le temps, enfin la forme est complètement confondue avec le fond, tu joues avec la forme. Pour ton premier album, je crois qu'il y a une case vide, c'est ça, et que tu joues avec et les personnages pensent que qu'il y a une raison scientifique au fait qu'il y a une case vide. Ils revivent quelque chose qu'ils ont vécu, puis deux fois, donc vous imaginez le truc avec la case vide au milieu, et plein d'autres choses dans cette chose-là. Donc je pense que toi, tu joues, t'as essayé vraiment de jouer avec à prendre une hypothèse qui n'est pas forcément un paradigme scientifique, mais en tout cas une hypothèse, et de la pousser à fond pour ton modèle narratif. C'est ça ?
Oui, bah, pas exactement. Enfin, là, je me sens un petit peu candide parmi vous, les scientifiques et écrivains également de science-fiction. Mais si on parle de modèle scientifique, moi, ce que ça me fait penser, quand j'entends modèle, je pense au modèle du peintre, si vous voulez. Donc, il y a un modèle et il y a un artiste, un créateur qui regarde ce personnage ou cet objet, un vase, peu importe, et va en faire quelque chose et va le transgresser d'une certaine manière. Parce que si c'est juste pour pour le restituer, pour le redonner fidèlement, forcément, c'est limité. Et puis, ça peut être vite sec ou en tout cas asséchant. Donc, la science, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un modèle. C'est-à-dire que j'aime lire de la science, j'aime lire des écrits scientifiques parce que ça a fait germer en moi des choses, mais qui n'ont rien à voir avec évidemment avec la science. Et c'est peut-être ça, effectivement, qui peut être intéressant. Mais c'est marrant que tu parles de Mars tout de suite, parce que j'étais justement en train d'y penser. Je suis allé voir avant-hier Sol sur Mars, et là, par exemple, il y avait quelque chose, il y avait peut-être matière dans ce film-là à dire des choses, à développer une poétique, à développer une réflexion, des interrogations justement sur cette histoire de temps. Et le film est un peu passé à côté, il me semble, hormis le fait que c'est un film que j'ai bien aimé, et il y a un retour sur investissement, on va dire, qui est correct. Mais ce qui est un petit peu dommage, par exemple, c'est qu'on passe à côté de ces fameux 30 minutes lumière. Enfin, je dis ça sous contrôle.
Ça dépend où est Mars.
Voilà, ça dépend où est Mars. Mais en tous les cas, c'est ce décalage de communication. Là, il y aurait eu, par exemple, quelque chose d'intéressant pour écrire un scénario peut-être autre, même si on gardait le scénario tel qu'il est. Il y aurait pu y avoir des moments où on comprenne vraiment que c'est compliqué de communiquer quand on est sur Mars, par exemple. De la même manière que c'est sans doute compliqué d'être tout seul sur une planète. Là, il y avait peut-être des instants de poésie et de rêverie à développer que Ridley Scott, à mon avis, n'a pas pu, ou que les producteurs plutôt n'ont pas voulu, peut-être, voilà. Donc là, on rentre un petit peu dans le vif du débat, c'est-à-dire que comment effectivement le matériau science, avec ses nouveaux paradigmes, avec ses nouvelles donnes, on va dire, est-ce qu'on est capable, nous les créateurs, de les prendre comme une glaise, comme un matériau pour restituer soit la vraie donnée de ce changement, soit les transformer pour créer quelque chose. Moi, je pense que oui. Alors, je le fais avec mes petits moyens, la bande dessinée, en mettant le pied dans la porte, on va dire, pour aller chercher des trucs un peu ailleurs. Mais voilà. Mais
si on prolonge l'idée sur Mars, en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est un film dans lequel le spectateur vit le délai au moins une fois dans le film. Mais je ne sais pas, ça ne doit pas être le cas. Quand Mars est la plus proche de nous, je crois que c'est quelques minutes, donc c'est possible au cinéma. Sinon, ça pourrait faire un film très très long s'il fallait attendre. Mais c'est 2 fois 4 minutes, je crois, le plus court, mais sous contrôle de... Personne ne sait, je crois. Mais donc, ça aurait été peut-être rigolo que le personnage sur Mars envoie son message, donc on le voit envoyer son message, et puis il va faire autre chose, machin. Sur Terre, ils font rien, et puis au bout d'un moment, 4 minutes après, sur Terre, ils entendent, le truc arrive, ils l'écoutent, ils méditent une réponse, ils la renvoient. Et donc, là, peut-être qu'on serait allé dans la direction du débat, c'est-à-dire de mettre un paradigme scientifique, c'est la relativité restreinte, dans la forme, vraiment, dans le modèle narratif, c'est-à-dire de l'ériger un peu en modèle narratif. Ça aurait pu être rigolo, ça.
Mais je pense qu'en fait, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est le changement même de paradigme qui peut être mis en scène, ou utilisé comme mécanique d'articulation de ce qu'on raconte, c'est-à-dire le fait que le sol sur lequel on pensait avoir les pieds se dérobe sous vos pieds, et que le monde qu'on croyait connaître n'existe plus. Par exemple, dans un album de Marc-Antoine Mathieu, quand le héros s'enfonce dans une petite rue pour échapper à un embouteillage de piétons, et qu'il se rend compte que cette petite rue, en fait, qui a l'air très longue, est très courte, mais construite en perspective, et que les morceaux de maison s'effondrent autour de lui. C'est ce genre de choses que...
Oui, bah, là alors ça, je suis pas tout seul à le faire, hein. Beaucoup de gens l'ont fait bien avant moi, hein, en commençant par Winsor McCay avec Little Nemo, Francis Mas, parce que là, rapport bande dessinée science, il y en a un qui est le grand maître, qui est le grand maestro, c'est bien Francis Mas, hein, je vous recommande de le lire si vous le connaissez pas. Lui triture la science et récupère tous ces paradigmes scientifiques pour en faire une poésie pure avec une espèce de logorée flamboyante. Mais ça, c'est le côté un peu Matrix, c'est-à-dire qu'on pense que le monde est tel qu'il est, et puis tout d'un coup, il y a une catastrophe, il y a quelque chose qui se passe, un glissement de terrain qui fait qu'on est projeté dans un autre monde, mais un autre monde, pas seulement un autre monde, pas seulement un autre continent, vraiment un changement total et radical de la manière dont on appréhende le monde. Donc là, on retourne un petit peu au mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire que ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, mais il y a un autre réel. Alors là, c'est le réel et son double, hein, pour reprendre les mots de Clément Rosset. C'est-à-dire que le réel n'est pas ce qu'on voit, il est autre. Et il est à jamais accessible, sauf si effectivement l'artiste essaye d'y mettre un petit peu son grain de sel. Quoi. C'est une vraie gageure, mais c'est, je pense que l'engagement artistique, mais peut-être aussi scientifique, repose sur cette question, je pense.
Je peux, oui. Dans une de mes nouvelles, qui est un peu ancienne, puisqu'elle date de 1967, mais c'est ce qui fait, enfin, sa première publication, mais enfin, c'est ce qui fait aussi son intérêt, j'ai à la fois utilisé à fond un paradigme scientifique très important, qui est celui de l'évolution, et je l'ai transgressé dans ma nouvelle « Les virus ne parlent pas ». Un scientifique qui vient m'expliquer, la nouvelle littérairement est peut-être un peu faible parce que c'est essentiellement un dialogue, que dans l'évolution, il a vu Dieu. Alors rassurez-vous tout de suite, ce n'est pas le Dieu en question, ce sont des virus, ce sont des tout petits êtres, d'ailleurs, qui n'existent plus à l'heure actuelle parce qu'ils ont été détruits par les humains et en particulier par l'alcool, mais qui ont provoqué et orienté sur des centaines de millions d'années le processus de l'évolution pour se doter de grandes machines leur permettant d'observer le macro-monde où nous sommes. Alors c'est à la fois fidèle au paradigme darwinien, et ça le transgresse évidemment parce que ça fait appel à une orientation, à un sens de l'évolution que tous les évolutionnistes actuels évidemment décrivent. Enfin, je me suis amusé à ce double jeu. Alors, la découverte récente de macrovirus est gigantesque, de la taille des plus petites bactéries, voire un peu au-delà, m'a donné envie de donner une suite à cette nouvelle « Les virus ne parlent pas », une suite, si je l'écris un jour, qui s'appellerait « Les virus mènent la danse, ils ont continué à contrôler l'évolution ».
Oui, bon, c'est assez décevant d'apprendre que le Van Mees détruit Dieu.
C'est intéressant, moi je rebondis sur l'idée des virus, parce qu'on pourrait... Ce que vous racontez sur les virus, on pourrait aussi le développer avec les gènes. Charles Dawkins a écrit Le gène égoïste. Très intéressant comment lui il voit l'histoire finalement de la vie et de l'humanité. Parce qu'évidemment, ça nous intéresse au premier chef dans la mesure où il explique que finalement, nous ne sommes que des véhicules de gènes. Nous ne sommes que des machines extrêmement complexes, sans doute magnifiques aussi. Hein. Il le décrit comme quelque chose de magnifique, mais qui ne sont faites que pour faire survivre le continuum génétique depuis le début, que les premiers réplicants, tels qu'ils les appellent, hein, ils appellent les premiers gènes les réplicants, et ces réplicants sont devenus de plus en plus complexes, et les machines qui les transportent, elles aussi.
J'ai publié Dawkins, d'ailleurs, pas le gène égoïste, mais l'horloger aveugle qui a écrit par la suite. Mais virus, ou plus exactement, mes êtres antérieurs au virus, qui ont peut-être subsisté, si je donne une suite à la nouvelle, précisément, agissent au niveau des gènes, manipulent les gènes, ce qu'ils font dans le concret. Alors, ma plus grande erreur, comme disait Einstein, ça a été quand j'ai écrit la première nouvelle, vers 1965, j'avais dans l'idée que ces petits dieux déplaçaient d'un individu à l'autre ou bien d'une espèce à l'autre même un morceau de gène. Et puis je me suis dit, non là, tu vas trop loin. personne ne va te prendre au sérieux, fais pas ça, laisse tomber, etc. Je m'en mords encore les doigts puisque c'est quelques années plus tard... ça a été bien établi, enfin, c'est même utilisé dans le système CRISP et quelques autres pour manipuler au plus profond les gènes. Et j'ai j'ai demandé à quelqu'un, un scientifique de haut niveau, enfin, qui est dans un institut, un jour, parce que personne n'avait réussi à me répondre à cette question jusque-là, dans un litre d'eau de mer, quel est le poids massique, des virus, hein, parce que c'est extrêmement petit. Alors il a mis 6 mois, mais très gentiment, il m'a envoyé une évaluation. Et si je fais cette nouvelle, je la glisserai dedans. C'est pas très important pour les scientifiques d'avoir cette valeur massique, mais c'est très parlant pour le public. Donc je tenais à en disposer dans le texte que j'écrirai peut-être.
Raphaël, tu as posé la question de savoir si on pouvait faire un ouvrage de science-fiction sur la relativité. Ça existe en un certain sens, mais c'est une œuvre un peu singulière et assez audacieuse. Je pense à une trilogie de Greg Egan qui n'a pas été traduite en français, qui s'appelle Orthogonal, orthogonal si vous voulez, dans laquelle il postule qu'on n'a que des plus dans la forme de Lorentz, au lieu d'avoir un moins. Donc, comment dire, il change un petit bout des équations qui permettent de décrire l'espace-temps, et ça a des conséquences tout à fait paradoxales. Par exemple, le fait que la vitesse de la lumière dépend complètement de la longueur d'onde. Donc des couleurs différentes vont être transmises à des vitesses différentes. Et donc, quand on observe des étoiles, on voit des traînées irisées parce que l'étoile ayant changé de position au cours du temps, les parties de sa lumière correspondant à différents niveaux de spectre arrivent à différents moments à l'observateur. Ça, c'est l'image par laquelle commence le premier volume du livre et qui est expliqué plus tard. Alors, je ne serais pas capable de vous reproduire l'explication. Ça aussi les conséquences sur la stabilité de la matière. C'est un truc très bizarre. Il n'y a pas vraiment d'atomes au sens où on l'entend. Il n'y a pas d'électricité. Il y a tout un tas de considérations. Et ce qui est l'intrigue du livre est construite des trois livres, parce qu'il y a trois romans, est construite sur les découvertes successives que font différents personnages, parce que ça prend plusieurs générations. Au niveau scientifique, il y a bien sûr d'autres choses dans le livre. C'est un roman qui se lit bien, à la différence du roman précédent qu'il avait fait sur la relativité, qui s'appelait Incandescence et qui est un peu rude. Il y a tout un tas de conséquences rigolotes. En particulier, le fait que quand des étoiles arrivent avec un certain angle dans l'espace par rapport à d'autres en allant très vite, le temps semble inversé, donc il y a des paradoxes temporels. Ce qui est notable dans ce livre, c'est qu'il est un peu... Alors, j'ai adoré, c'était un trip total, mais il est un peu illisible, faut le dire, parce que il y a des passages où vraiment l'auteur considère que le lecteur doit prendre le crayon et vérifier les calculs. Il explique tout à partir du théorème de Pythagore. Il a encore plein de pages sur son site personnel où il explique encore plus pour les gens qui veulent pousser la question. Il a une vision assez rigoriste des choses. Il y a aussi tout un tas de considérations politiques, en particulier sur la relation entre les sexes, dans une espèce totalement différente des humains, mais qui a ses propres problèmes au niveau de la reproduction, au niveau de la politique familiale, si on peut dire, ce qui est passionnant. Mais en même temps, il y a des moments dans le livre où, quand il nous donne, par exemple, la table de multiplication des quaternions, je suis mathématicien, je pose le crayon et je saute quand même parce que je suis lecteur et c'est un petit peu difficile. Mais c'est une tentative remarquable qui lui a coûté beaucoup de travail et qui lui rapportera pas beaucoup parce que justement le lecteur se décourage. Et il était bon de noter que ceci existait. Alors je pense quand même qu'il y a beaucoup d'autres œuvres de science-fiction qui prennent les choses de façon plus facile, mais qui essaient de donner ce sentiment de l'étincelle de la découverte et du changement de paradigme. Souvent, la méthode qu'on utilise consiste à se placer dans le passé, dans un passé transformé, ou sur une autre planète ou un autre monde qui est moins avancé que le nôtre, pour pouvoir expliquer des choses qu'on connaît vraiment. Je ne sais pas si vous avez des exemples en tête.
Si, mais quand, dans le bouquin que tu mentionnes, là, que je n'ai pas lu, mais j'ai l'impression que donc, effectivement, ça a une influence très nette sur le modèle narratif, puisqu'il t'invite à faire des choses que tu ne fais pas d'habitude dans un livre. mais j'ai pas l'impression que ce soit le paradigme scientifique lui-même qui fait ça. C'est-à-dire qu'il décide, je sais pas si c'est lié, mais il décide de faire un bouquin dans lequel la science va jouer un rôle important et que ça a une influence sur le modèle narratif. On n'est pas encore dans le paradigme, j'ai l'impression que c'est la question qui est posée, on n'est pas encore dans le paradigme scientifique qui détermine la forme, le modèle narratif qui est mis en jeu. Moi, je dirige des bouquins qu'on écrit à plusieurs, qui sont fortement illustrés, qui se rapprochent un peu de la BD. Il y a beaucoup de textes dans lesquels, à chaque fois, donc c'est des bouquins atypiques. Donc il faut se poser la question dès le début du modèle narratif. Alors pour l'instant, on n'en a pas fait qui dérive de la science, mais peut-être qu'après la table ronde, j'aurai une idée et on ira dans ce sens-là. Mais à chaque fois, on doit se poser la question quelle est la bonne façon de raconter ce qu'on veut. Et j'aimerais bien trouver une idée, effectivement, où un modèle scientifique détermine la forme qu'on a. Je donne un exemple sur un de nos bouquins. Il y en a un qui est sur Jules Verne qui s'appelle Un an dans les airs, dans lequel on s'est dit notre but principal au début, c'était mais il faudrait qu'on réussisse à parler de l'intégralité de l'œuvre de Jules Verne avec des personnages fictionnels dans un endroit et tout ça. Et on se casse la tête et on trouve le moyen et on se dit bah ok, on va prétendre que Jules Verne s'est réfugié dans une ville pendant un an avec des scientifiques justement de cette époque-là utopique. Et que donc il a vécu un an en 1970 dans cette ville qui s'est effondrée à la fin et il revient sur la Terre normale. Donc c'est pas une uchronie, c'est une transchronie. C'est-à-dire il y a un petit moment du temps qui n'est pas le même, mais après on revient sur l'histoire normale. Et on prétend que Jules Verne s'est inspiré de tout ce qu'il a vécu là-haut pour écrire tout ce qu'il a écrit après. Donc le twist, c'est d'inventer le personnage qui aurait inspiré Phileas Fogg en s'inspirant de Phileas Fogg, une espèce de twist comme ça. Alors, le paradigme, il n'est pas scientifique, même si ça parle pas mal, le bouquin parle pas mal de science, mine de rien, mais le paradigme n'est pas scientifique. Mais là, le modèle narratif est déterminé par la volonté qu'on avait de faire ça. Et moi, je vois pas de... Alors, chez toi, y a, je pense que toi, le paradigme, je crois, c'est la forme BD. C'est-à-dire que tes personnages, ils savent qu'ils sont dans une BD, c'est leur paradigme scientifique, puisqu'ils sont... C'est leur science, à eux. Nous, on a un espace-temps comme ça. Eux, ils ont des cases. Ils se rendent compte qu'ils vivent dans des cases. Il y a plein de choses. Tu joues avec le code comme ça. Et je pense vraiment, enfin, tu me corriges si je me trompe, que tu... Pour quasiment chacun des albums de Julius Corentin Hacfac, à chaque fois tu trouves une idée qui secoue le paradigme un peu, la case vide, la quadrichromie. Il y en a un qui est génial, je trouve, c'est le décalage, c'est ça ? Ou la forme BD, vous savez, il y a une couverture, tu tournes la page, il y a des choses. Sur la dernière page, il y a aussi des choses précises. Il y a l'endroit où on dit les œuvres de l'auteur et tout ça. Et dans cet album-là, tu as tout décalé de 10 pages.
Oui, alors moi c'est un petit peu plus simple dans mon cas, dans la mesure où je m'appuie pas sur des lois scientifiques ou sur des paradigmes scientifiques, mais plus sur des postulats. Donc, mais ça rejoint un peu la question qu'on se pose, c'est-à-dire comment effectivement, en partant d'un postulat donné, on peut lier la forme du médium qu'on utilise pour coller à ce postulat. Dans le même cadre d'idées que tu développais, on avait travaillé avec Marc Caro sur un documentaire sur Philippe K. Dick et on s'était vraiment posé la question de comment, dans la forme même de ce documentaire, on pouvait travailler sur justement ce qui sous-tend l'œuvre de K. Dick. Encore une fois, justement, le monde est ce qu'il est, mais... Non, en fait, il n'est pas vraiment ce qu'il est. Tout Philippe K. Dick, en fait, toute l'œuvre de Philippe K. Dick repose là-dessus. Enfin, pour les gens qui ont lu le magnifique livre de Carrère sur K. Dick, ça, c'est très, très intéressant. Donc, on avait un petit peu travaillé sur un scénario où, en fait, on ne ferait pas un documentaire sur K. Dick, mais sur ce qu'aurait pu être K. Dick, quoi. Donc, voilà. Alors là, encore une fois, c'était l'idée. C'était justement d'allier une forme... Qui donnait à voir, mais d'une manière, on va dire par la bande, hein, donnait à voir en profondeur ce qu'était K. Dick. Et puis là-dedans, dans ce package un petit peu décalé, on va dire, alors il pouvait y avoir effectivement toutes les données sur Philippe K. Dick auxquelles le téléspectateur était en droit d'attendre, quoi. Mais pour revenir à mes bandes dessinées, je ne vais pas m'appuyer sur des paradigmes pour faire toute une histoire. Par contre, pour faire certains tableaux, certains passages ou simplement raconter traduire effectivement certains concepts scientifiques. Là, je vais m'amuser effectivement à utiliser la bande dessinée. Par exemple, dans l'origine, le trou dans la page et le fait de faire passer le temps d'une page à l'autre, c'était un petit peu pour raconter une analogie avec les deux dimensions et les trois dimensions. C'est-à-dire que j'imagine des personnages qui vivent en deux dimensions et qui n'ont jamais vu cette troisième dimension, donc ils n'ont jamais vu la hauteur, ils n'ont jamais vu l'épaisseur, donc ils essayent d'imaginer ce que peut être l'épaisseur, mais évidemment ils n'y arrivent pas, exactement comme nous, de la même manière, on vit dans un monde tridimensionnel. Si vous essayez d'imaginer ce qu'est un monde quadridimensionnel, vous n'y arriverez pas. Certains scientifiques y arrivent une demi-seconde peut-être. Je me souviens, j'avais une discussion avec Lévi Leblon qui me racontait que à certains moments, il y arrivait, mais c'était très fugace. Et il m'expliquait que peut-être un jour, dans 50 ans, dans un siècle, on aura, grâce justement aux auteurs de science-fiction, grâce à des auteurs de bande dessinée, grâce à des mathématiciens, des enseignants, etc., on arrivera sans doute peut-être à se formuler ce qu'est concrètement dans notre imaginaire. On arrivera à imaginer ce qu'est la quatrième dimension. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible, parce que concevoir le temps comme une dimension, peut-être même comme une masse, je ne sais pas. Enfin, peut-être que le temps est complètement autre chose que ce qu'on croit être ou ce qu'on ne croit pas être, on n'en sait rien. Voilà. Donc moi, avec mes petits moyens de bande dessinée, effectivement, je m'étais amusé à faire cette analogie-là, juste pour, non pas pour expliquer ce que c'est que la quatrième dimension, mais pour entrevoir le chemin qu'il y a à faire pour l'envisager. C'est ça que je fais de temps en temps dans mes bandes dessinées.
Mais ce qui est génial, c'est que dans je crois que tes personnages, ils ont leur propre science, en fait, la science de leur propre monde, comme tu viens de le dire. Ils vivent dans un monde à deux dimensions, donc bon, ils le savent. Et ils vivent dans un monde de cases, ils le comprennent, ils jouent avec. Et c'est ça. T'as une science, t'as un paradigme de la science. Alors, c'est pas notre science à nous, puisque c'est dans un monde de BD, quoi. Et tu es riche. Enfin, tu utilises ce paradigme scientifique pour faire ton modèle narratif pour décliner, je dirais, plusieurs modèles narratifs selon les albums que tu selon les différents albums.
Oui, en fait, ces essais qui sont toujours très difficiles pour inscrire un paradigme scientifique dans une narration, c'est quelque chose de déjà très ancien, enfin relativement ancien. Tu me faisais penser à Flatland, où il y a une exploration du monde à une dimension, deux dimensions, trois dimensions, qui est très mystérieux pour les gens des deux dimensions, les Flatlandais, et une idée de ce qui se passe en quatre dimensions. Et quant à la perception d'un univers à quatre dimensions, voire au-delà, je pense qu'elle peut nous être considérablement aidée par les simulations informatiques. Je n'ai vu un certain nombre. Et on arrive à une représentation presque intuitive, enfin, de ce que c'est qu'un tesseract, c'est un hypercube, enfin, une hypersphère, etc. Alors, il y a un bouquin qui date de l'entre-deux-guerres, un court roman qui est paru dans Science et Voyages, dont malheureusement le titre m'échappe, mais enfin, tous les lecteurs ici le reconnaîtront instantanément. Et qui décrit la tentative pour un savant de créer, suivant les règles de la relativité restreinte, une bulle d'univers. Alors, il se lève dans les airs pour perdre le contact avec la Terre, et à l'intérieur de cet univers miniature, un certain nombre de phénomènes se produisent en accord avec la relativité. Ce n'est pas un chef-d'œuvre littéraire, mais c'est très remarquable. Puis je pense aussi alors à la lisière de l'information ou de la vulgarisation scientifique et de la littérature, mais c'est quand même fictionnel, au fameux bouquin de Gamow, un très grand physicien, Mr. Tompkins explore l'atome, qui permet vraiment au grand public, et ce sont des livres qui sont parus dans les années 40 aux États-Unis, dans les années 50 en France, et ils ont été réédités d'ailleurs assez régulièrement et en tout cas récemment, ça permet vraiment au grand public de se faire une idée très concrète de ce que la relativité, par exemple la vitesse, la limite de la vitesse de la lumière et la physique quantique implique. Il prend l'exemple de M. Tompkins qui se déplace en vélo, mais la vitesse maximale, c'est la vitesse de la lumière, est tombée à 30 km/h. Donc le monde autour de lui, entre autres choses, se déforme. C'est très amusant. Et sur le plan quantique, jouer au billard quantique avec une incertitude sur la trajectoire des vies, ça pose problème. Donc je recommande la lecture de Gamow, qui était par ailleurs un très grand savant et qui a eu l'idée géniale du rayonnement de fond de l'univers, je crois le premier.
En fait, la démarche que vous décrivez dans certains cas ici nous sort du domaine des sciences expérimentales et nous met plutôt du côté des mathématiques, dans la mesure où on se donne un ensemble de postulats, d'axiomes, et à partir de ça, on essaie d'en dériver les conséquences. Et donc on crée des univers souvent simplifiés, parce qu'il faut pouvoir les manipuler, qui nous instruisent pour comprendre le vrai univers en regardant une image fausse qui va nous apprendre plus sur la vérité.
Les virus, ils n'étaient pas dans le domaine mathématico-physique.
Ah non, dans les virus, non. Mais par exemple, un album comme celui sur la perspective, là, de Marc-Antoine Mathieu, la 2,333e dimension, à ce genre de jeu, mais il y a aussi des jeux qui ne sont pas explicitement mathématiques et qui reviennent à ça. Ou je pense aussi à un livre comme Le Monde Inverti de Christopher Priest, qui est un des invités présents ici, dans lequel la surface de la Terre, au lieu d'être une sphère, devient un hyperboloïde, et ça change pas mal de choses, même si on se rend compte que c'est sans doute un jeu sur la perception.
Et Michel Jury, par exemple, a entrepris d'écrire quelques romans sur le thème de monde fractal. Ouais. C'est très difficile. Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit allé tout à fait au bout de son projet.
Tu penses à la série des Colmateurs, c'est
oui,
ça ?
Oui, la série des Colmateurs, tout à fait. Bon,
y a un cinéaste que je trouve qui est un peu rentré dans cette histoire de fractal, c'est Christopher Nolan avec Inception. Dans Inception, on a l'odeur d'un monde fractal. C'est-à-dire qu'effectivement, le cerveau fonctionne comme une espèce d'arborescence fractale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que notre conscience, en fait, ce n'est que le système d'exploitation d'une espèce de machine qui s'appelle le cerveau qui fonctionne pas du tout d'une manière linéaire. C'est-à-dire que notre conscience, c'est l'émergence d'un système physique qui fonctionne d'une manière à la fois fractale et en arborescence. C'est-à-dire que c'est un peu comme un ordinateur. Quand vous utilisez un ordinateur, il y a tout un tas de calculs qui se font en même temps. Et le système d'exploitation, quand vous ouvrez une image, un logiciel, et vous, nous, l'humain, on a été obligé de séquencer nos actions pour faire. Mais l'animal, par exemple, ça ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne un petit peu comme ça, ça dépend des animaux. Mais l'homme, lui, il a fallu qu'il séquence tout ça. Donc, notre système d'exploitation rend le monde d'une certaine manière. On a inventé le temps, on pourrait dire. L'homme, d'une certaine manière, a inventé le temps. Et justement, dans le film de Nolan, ce qui est intéressant, c'est que là, on se retrouve dans un monde où plusieurs choses peuvent se passer en même temps, quasiment, avec des échelles de temps différentes. Et là, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il a réussi à donner, à ouvrir la porte à une autre manière de voir cette histoire de temps. Là, je ne parle plus du temps quantique et mathématique, là, je parle du temps psychologique, hein, donc le temps créé par l'humanité.
Ouais, tu as raison, tout à l'heure, je cherchais un film et je le trouvais pas, un film dans lequel justement une influence forte sur le modèle narratif. Et dans celui-là, c'est très clair parce que le fait qu'on fasse du temps dans du temps dans du temps, je sais pas si vous souvenez, les personnages se réfugient dans une espèce de rêve pour influencer. Et donc ça influe très très fortement sur la forme narrative, pas de tout le film, mais de cette scène immense finale qui est à plusieurs niveaux de réalité là. Donc, j'avais pensé à Interstellar et ça marche pas dans Interstellar. Dans Interstellar, il y a un paradigme scientifique dont on pense ce qu'on veut, qui conditionne pas mal de choses dans le film. C'est par la gravité qu'on peut transgresser le temps, donc tout le film est basé là-dessus, mais ça change pas grand-chose à la forme narrative. Alors que là, là, ça joue pas mal. Ouais, et ce que tu, en fait, on est arrivé sur le cinéma. Je pense que c'est pas un hasard en fait, parce que Dans un roman, on peut jouer, bien sûr, avec le modèle narratif, mais on reste en 2D, enfin même en une dimension, parce qu'on écrit comme ça, quoi. Hein. Et donc on peut jouer un petit peu, on peut segmenter les chapitres différemment, on peut faire des expériences complexes. Il y a des bouquins, je pense à La Maison des Feuilles, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin qui est complètement fou, qui part, où là le modèle narratif devient complètement dingue, c'est une histoire fantastique. Et donc on peut jouer un petit peu, mais pas tant que ça. En BD, on gagne une espèce de deuxième dimension. Et tu peux jouer beaucoup plus avec ton modèle narratif parce que tu as plus de degrés de liberté pour employer même un terme scientifique. Cinéma, encore mieux, parce que là, la troisième dimension, enfin, il y a le temps en plus, et même maintenant, on peut même le faire en 3D, mais il y a le temps en plus qui est imposé, parce que dans la lecture, le temps, c'est le nôtre, on décide à la vitesse à laquelle on veut lire. Bon, l'auteur peut essayer d'influencer un peu les choses, mais il n'a pas le choix. Dans le film, il a le choix. Et là, justement, dans Inception, c'est Nolan, il joue à fond avec ça.
Ouais. Et c'est d'autant plus remarquable que c'est vrai que le cinéma, on est prisonnier du temps du réalisateur, on est prisonnier du temps du film. Hein. 2 heures de film, c'est 2 heures, c'est pas 3 heures. Donc, on a plus de liberté de triturer le temps et de travailler avec le temps, finalement, quand on est écrivain ou éventuellement auteur de bande dessinée, ou même, pourquoi pas, musicien. Mais en tous les cas, dans le cinéma, on est coincé. Or, c'est là où c'est remarquable dans ce film-là, c'est que quand on sort de Inception, on a un petit doute de savoir quel est le temps du film. Est-ce qu'on a duré 2 heures, est-ce que 3 heures et demie? Enfin, en tous les cas, on a le sentiment quand même un peu confus d'avoir vécu une expérience temporelle sur le temps. On a, voilà, le temps, il commence à avoir une forme. Ça, c'est vachement intéressant. Alors, même si après, bah, ça se barre dans des trucs un peu poétiques ou dans des choses qui n'ont plus rien à voir avec la science, c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, on ait senti quelque chose physiquement, intellectuellement, qui est de l'ordre d'une expérience, quoi. Vraiment unique.
Et ce mode de littérature, et d'ailleurs éventuellement de film, et certainement de bande dessinée, pose un problème très fondamental, un problème proprement sociétal. Parce qu'il faut que l'auteur ait une culture scientifique suffisante, c'est-à-dire une culture scientifique étendue et profonde, mais il faut que son public ait également cette culture scientifique. Alors, nous ne sommes pas tout à fait dans cette société. Et nous le sommes un petit peu avec une partie de la science-fiction. Mais alors, j'espère que dans l'avenir, la culture scientifique, une vraie culture scientifique, se répandra si profondément et si largement qu'on pourra beaucoup plus aisément jouer avec des complexes, avec des concepts très complexes, comme ceux de la physique quantique, par exemple. Certains le font, comme Greg Egan. Je suis pas sûr qu'ils soient toujours compris par tout le monde. Ça, c'est vraiment un grand problème.
Greg Egan est quelqu'un qui, à mon avis, prend un peu trop le taureau par les cornes. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un côté injonction. Il dit « j'écris des livres qui ne sont pas faits pour être lus dans le bus ». Et bon, d'accord, oui. Et il reconnaît qu'il a perdu quelque chose comme les 2/3 de son public depuis qu'il a vraiment changé, qu'il a mis des livres avec des formules dedans. C'est peut-être un peu trop frontal comme approche.
Oui, là,
Robert Heinlein, il y a 70 ans de ça, avait un truc plus subtil, c'est-à-dire qu'il avait écrit des livres pour la jeunesse dans lesquels il glissait des morceaux de sciences élémentaires qui étaient destinés à donner envie d'apprendre. Et dans lesquels il était clair que les héros qui allaient réussir, c'est ceux qui allaient se doter d'une culture scientifique. Donc il se disait, dans 20 ans, ces gens-là feront peut-être... Je ne sais pas si ça a marché non plus, mais c'était une approche peut-être plus subtile.
Mais quand on voit le décalage entre la littérature blanche, enfin la littérature littératurante, qui est très souvent, à l'insu de l'auteur, évidemment, des lecteurs, truffée d'erreurs scientifiques grossières. Je m'amuse de temps en temps, ce n'est pas toujours visible, parce que comme ils décrivent un monde qui est proche du nôtre ou analogue au nôtre, ils n'ont pas trop à se casser la tête. Mais on mesure bien la distinction, la différence, la distance énorme qui existe entre les représentations du monde des gens, des littéraires ou du lecteur ordinaire, dirons-nous, et puis les représentations du monde qui, depuis plusieurs siècles, ont été progressivement constituées par le travail scientifique, et de ça dans tous les domaines.
Je dirais même plus, c'est beaucoup plus grave quand ce sont les politiques qui souvent ont une culture, disons, dans les humanités et qui font des erreurs de calcul grossières alors qu'ils ont, eux, à agir sur le monde.
C'est... Malheureusement, j'en ai assez souvent fait l'expérience, ayant œuvré comme économiste à la lisière, disons, de la haute fonction publique et du politique. C'est terrifiant. C'est terrifiant. L'inculture scientifique de ce milieu est proprement terrifiante.
Je suis bien d'accord avec toi. Tu disais quelque chose qui me... Dans la description un peu plus longue de notre table ronde, il était mentionné que les paradigmes devaient être communicables. Et je comprenais... Enfin, je n'étais pas d'accord avec le terme.
Irréfutable.
Et je n'étais pas trop d'accord avec le terme, parce qu'en science, le paradigme ne doit pas être... Il doit pas être communicable. C'est nulle part écrit. Il doit être simple. On a l'intuition que quelque chose doit être relativement simple, mathématiquement parlant, pour qu'il traduise vraiment la réalité, mais c'est de l'ordre de l'intuition, mais il n'est nulle part écrit qu'il est communicable. En revanche, pour qu'il soit utilisé en science et éventuellement donc pour un modèle narratif, là c'est clair, il vaut mieux que ce soit communicable.
Donc j'ai pas de trop de...
Bien, ben, il est temps de communiquer. Je dirais qu'en tout cas, c'est plutôt des travaux scientifiques qui doivent être communicables et réfutables. Le paradigme étant quelque chose de plus grand qui les englobe. Je pense que notre cher public doit avoir des questions, des commentaires, des complaintes, et il doit y avoir un micro qui peut circuler et qui, voilà, il y a quelqu'un au fond déjà. Oh, c'est toujours le même.
Oui, bah désolé.
Non, mais c'est bien, ça montre qu'il y a des choses à dire. Allez.
Oui. Je voudrais que vous rebondissiez sur l'emploi de la théorie de la relativité. J'avais l'impression qu'on était plus dans l'usage d'une théorie plus que dans l'usage d'un paradigme, puisque la théorie allait expliquer des choses au-delà, mais ça n'a pas changé la réalité qu'on connaissait actuellement. On n'a pas eu de changement de paradigme pour... La vitesse en dessous de la vitesse de la lumière. Alors que, par exemple, Newton, il y a eu vraiment un changement de paradigme, puisque là, les corps chutaient de manière différente avant et après sa théorie. Et non, donc, c'est vrai que, est-ce qu'il n'y aurait pas, je veux dire, des choses plutôt dans ce sens-là? Des choses, par exemple, avant, après Newton, ou des...
Si, bien sûr.
Ah bah, avant, après Einstein, enfin, mon collègue là, c'est certainement beaucoup plus compétent que moi pour répondre, mais il y a bien un changement de paradigme. Il n'y a plus de temps absolu, il n'y a plus d'espace absolu, il n'y a plus de possibilité de simultanéité au sens où Newton l'entendait, et il n'y a plus d'addition des vitesses, donc la possibilité d'avoir une vitesse infinie telle que ça pouvait fonctionner dans l'univers de Newton. Donc c'est un changement très profond de paradigme. En revanche, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que la relativité s'inscrit encore dans le cadre de la physique classique. Elle élargit considérablement, tout en le renversant, le paradigme newtonien, si on décide d'appeler ça comme ça, mais elle reste dans le cadre d'une physique classique. Il y a Galilée, Newton, Einstein, même combat. Avec la physique quantique, on passe à tout à fait autre chose.
Oui, non, ce que veut peut-être dire la personne aussi, c'est que c'est vrai que la mécanique quantique et tout ce qu'a amené Einstein n'influe pas forcément effectivement directement sur notre monde tridimensionnel. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande ignorance autour de ça.
Aussi,
oui, mais très peu par rapport, par exemple, avec Newton.
Aucun GPS ne peut fonctionner sans l'utilisation des équations de la relativité.
Oui,
c'est tout bête.
Mais
votre téléphone, il est fondé sur la physique quantique.
Mais c'est clair.
Vos ordinateurs, ils fonctionnent à coup de physique quantique.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change pas fondamentalement le regard qu'on a sur le monde. Vous voyez, il n'y avait pas un lien direct. Il y avait un lien direct.
Pour les ignorants, ça ne change pas.
Alors que, par exemple, dans Newton, par exemple, clairement, le fait d'avoir trouvé cette histoire de cercle chromatique a changé radicalement la manière dont on percevait les couleurs. Par exemple, avant Newton, on était encore dans des schémas d'appréhension de couleurs qui étaient des schémas presque préhistoriques. Enfin, on pourrait presque appeler ça de préhistorique. C'est-à-dire que, par exemple, au Moyen-Âge, la couleur verte, la couleur marron, d'ailleurs ça avait d'autres noms, était perçue pas du tout de la même manière telle qu'elle sera perdue après Newton. Vous voyez, et là, effectivement, le paradigme scientifique qui a changé a fait basculer notre regard sur le monde de la couleur d'une manière franchement radicale. Pour ceux qui s'intéressent à la couleur de près, vous vous apercevrez qu'on ne voyait pas du tout les mêmes couleurs au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que je fais un peu le parallèle. C'est-à-dire qu'avec la mécanique quantique, ce n'est pas la mécanique quantique qui, aujourd'hui, nous fait voir le monde radicalement. Ça viendra. Ça viendra. Mais il faudra
c'est
du
sûr,
temps.
C'est pas sûr.
Moi, je pense que si, ça force, c'est comme la théorie de l'information, si vous voulez. Cette nouvelle théorie qui émerge, si jamais s'avère, riche en changement et riche en vérité, surtout, peut-être qu'effectivement, ça va faire basculer notre vision du monde et donc forcément la manière dont on racontera notre monde, ça fera basculer le monde d'une manière vraiment radicale. Mais pour l'instant, la mécanique quantique, la relativité d'Einstein, bon, à part effectivement savoir que oui, les étoiles bleues, les étoiles rouges, bon, ok, elles s'éloignent ou elles s'approchent, ou des choses comme ça, ça change un petit peu, mais très très peu. Enfin, et ça le change surtout c'est pour ça. Ceux qui s'y intéressent.
Ouais, ça change pas du tout la vie quotidienne, c'est ça le truc. C'est que comme Gérard disait, il y a des choses. Le GPS est le meilleur exemple. Il y a même les décorrections de relativité générale dans les GPS les plus précis. Donc ça a permis de faire des objets nouveaux dont les gens ne réalisent pas du tout que derrière. La mécanique quantique, c'est l'ordinateur. Enfin, c'est aussi simple que ça. Hein. Ne réalise pas du tout que c'est lié à un changement de paradigme scientifique que la plupart des gens ignorent. Enfin, pas tous, évidemment, mais la plupart des gens ignorent. Pour la couleur, je pense que je suis d'accord avec toi, mais pour la chute des corps de Newton, je ne suis même pas sûr que c'est changé quoi que ce soit dans la vision naïve d'un enfant qui connaît, enfin, ou d'un enfant qui, ou d'un, de quelqu'un qui n'a pas la culture des mathématiques minimales qu'il faut pour faire la chute. Les pommes chutent de la même façon, ça ne change rien. Et je vais même plus loin. La Terre est plate, non ? Vous êtes tous d'accord ? Vous n'avez jamais vu que la Terre était ronde ? On vous a montré des images, mais vous n'avez jamais eu d'intuition. Alors peut-être si vous êtes allé en avion et que vous avez fait bien attention. Mais on a très peu d'intuition de choses dont on sait très bien scientifiquement qu'on sait très bien que la Terre est ronde. Mais on en a très peu d'intuition à notre échelle à nous. Il y a d'autres questions.
On va prendre la question suivante, oui.
Si, justement, pour ce que vous venez de dire... c'est très facile.
Pardon.
Pour ce que vous venez de dire, quand on est au bord de la mer et qu'on voit un bateau partir, on se rend très bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Il suffit d'être au bord d'une colline, de voir quelqu'un descendre pour se rendre compte que c'est les mêmes choses qui se passent. Donc,
tout à fait, je suis d'accord avec vous.
C'est les voiles qui apparaissent en premier quand un bateau arrive au port, et ça, les Grecs l'avaient déjà remarqué.
Oui,
en fait,
et puis Christophe Colomb aussi. Mais moi, je suis myope, alors je ne le vois pas, c'est pour ça.
Là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant du point de vue historique. C'est que l'idée, sans que, pas exactement à ce moment-là, l'idée de la Terre sphérique, mais l'idée que la Terre soit un corps dont la forme n'est pas définie, qui flotte dans l'espace, est une idée très ancienne. Elle a probablement été développée pour la première fois, à peu près 600 ans avant notre ère, par Anaximandre, dont il nous reste à peu près une vingtaine de pages de fragments, hélas, et qui était considéré comme le plus grand esprit scientifique de l'Antiquité. 600 ans après lui, Cicéron disait d'Anaximandre qu'il nous avait ouvert les portes de la nature. Il y a toute une filiation, d'ailleurs, Anaximandre, Héraclite, Lucrèce, enfin, etc. Il nous en reste presque rien, malheureusement. Carlo Rovelli vient de lui consacrer un très, très, très beau livre. Et donc, il y avait cette idée que la Terre était un corps qui flottait dans l'espace, que le Soleil passait derrière. Et c'est un peu plus tard, en particulier avec Eratosthène qui mesure le diamètre de ce corps, de cette Terre, que l'idée d'une Terre parfaitement circulaire, ou enfin presque parfaitement circulaire, intervient. Cela étant, pendant très longtemps, un grand nombre de gens ont continué à croire, ce que je crois moi-même, que la Terre est plate. Ainsi, c'est évident.
Alors, et d'ailleurs, c'est ça qui c'est intéressant de noter, je rebondis là-dessus, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'à partir du moment où des scientifiques trouvent des pépites, ils trouvent des choses. Par exemple, effectivement, Eratosthène calcule la circonférence de la Terre à 500 km près, je crois, ce qui est un exploit à l'époque, avec juste des ombres, il compare deux ombres à 1000 km de distance. Donc, mais c'est une hypothèse, c'est une théorie, même si à l'époque, des gens pouvaient plus ou moins le prouver, rien n'empêche de retomber après dans un Moyen-Âge où tout le monde croit que la Terre est plate. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que la science aujourd'hui n'est pas assez enseignée, on peut tout à fait, le monde pourrait tout à fait retomber dans un Moyen-Âge où toutes ces idées de mécanique quantique, de monde subatomique, tout ça serait mis complètement de côté parce que d'autres forces, hein, beaucoup plus régressives, on dirait, pourraient prendre le dessus. Faut jamais oublier ça. Ces heures de paradigme, à partir du moment où effectivement ça n'a pas de concret dans notre présent et ça n'implique rien sur notre entendement du monde de réel, on peut retomber dans des, voilà, dans des trous, oui, noirs.
Donc on sort de notre sujet parce qu'on, oui, tombe dans la sociologie et qui sait quoi et qui croit quoi.
Tout
mais
est dans
nous
tout.
Avons une autre question, donc je crois qu'on va y passer. Parce que...
Oui, bonjour. Y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent se collisionner dans alors effectivement ça s'éloigne du sujet avec le paradigme scientifique et en même temps les schémas narratifs, mais y a une différence entre ce que les scientifiques peuvent produire comme savoir et la manière dont le public en fin de compte va se l'approprier et dont le savoir va se diffuser. Par exemple, effectivement, l'un des changements de paradigme importants entre le géocentrisme et l'héliocentrisme, voilà quoi. Voilà une manière de concevoir le cosmos qu'on avait avant, après. Et ce n'est pas pour autant d'ailleurs que 100% des personnes vont, si on leur demande est-ce que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou le contraire, vont spontanément. Et ça veut dire qu'effectivement, on a beau être depuis plusieurs centaines d'années dans le nouveau paradigme de l'héliocentrisme, ce n'est pas pour autant que les gens se l'ont approprié. Ça simplement parce que bon voilà, culturellement ils ont peut-être pas suffisamment baigné dedans, voilà. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut voir qui a diffusé même d'une manière par la marge dans l'esprit du public. C'est un paradigme pour moi qui s'installe plus ou moins au 19e siècle, qui est qu'on est tous par contre dans une histoire qui nous dépasse bien sûr, mais une histoire à différentes échelles, une histoire par exemple de l'évolution de l'individu, de l'évolution de l'espèce, des sociétés et même d'une évolution du cosmos. Et je pense que ce paradigme qui se forge au 19e siècle, qui fait que tout a une histoire, de l'individu jusqu'au cosmos, ça c'est quelque chose qu'à mon avis, même si les gens n'ont pas des connaissances très pointues, parce qu'ils ne sont peut-être pas scientifiques ou ils n'ont pas fait les études suffisamment longues dans les sciences, on a tous maintenant ça, ce schéma en tête, qui fait que voilà, on sait maintenant par les journalistes, par les films même d'ailleurs, qu'on est en train de, on est dans ce flux temporel, que notre soleil va s'éteindre, que l'univers est en train de se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé, parce qu'avant le 19e siècle, cette vision de que tout est dans l'histoire était quelque chose qui n'existait pratiquement pas. Et c'est le 19e siècle qui impose, avec l'évolutionnisme, avec les lois de la thermodynamique, qui impose ce schéma. Et je pense qu'il est quand même omniprésent maintenant dans notre façon de penser. Donc là, voilà, on a un paradigme qui quand même a diffusé assez massivement via différents canaux.
Ouais, en science, le fait de réaliser que les choses ont un début et une fin, ça a souvent causé des paradigmes shifts, des changements de paradigme, comme on dit. La radioactivité, c'est un autre exemple. C'est le fait que l'atome n'est plus éternel, qu'on ne s'arrête pas la chimie. Et même cette table ronde, c'est ça, un début et une fin, si j'ai bien compris.
Va avoir une fin bientôt. Mais à vrai dire, ce qui a rendu la science-fiction, en tout cas la littérature sur le futur possible, est justement l'émergence, c'était vers le 17e, 18e siècle, l'émergence de l'idée qu'il y a un futur qui n'est pas mystique, qui est un futur comme le nôtre, matériel, ordinaire, et qui n'est pas un monde statique qui ne peut se terminer que par la fin du monde avec le paradis sur Terre. Ça, c'est une manière de ramener les choses à la littérature. Je ne sais pas si nous pouvons prendre une dernière question, car il est l'heure et on ne va pas... Hein, je pense que les suivants attendent. Donc, une toute dernière, c'est monsieur au milieu, là. Rapide, hein. La musique commence à monter, hein. C'est mauvais signe.
Alors, c'est moins une question en fait qu'une évocation. Alors j'ai peut-être eu un trou à cause du manque de café moi aussi. J'ai pas. Je pense que vous n'avez pas évoqué dans les exemples d'application d'un paradigme scientifique à la narration l'œuvre du dragon de Robert Forward. Si je vois des hochements de tête, donc je suis pas complètement hors sujet. Donc je rappelle juste rapidement l'intérêt, enfin, ce que je trouve d'applicable à la discussion, c'est que dans l'œuvre du dragon, Forward met en parallèle deux narrations, celle d'une étoile à neutrons qui est en train de passer près de la Terre, pas trop près heureusement, et sur laquelle, dans un temps un million de fois plus rapide que le nôtre, se développe une civilisation, et dans le court temps où l'œuvre du dragon est assez près de la Terre, quelques mois, une équipe terrestre est envoyée pour l'étudier et ça culmine dans un contact entre les deux civilisations. Il y a tout ce côté double narration avec un double temps. Un temps plus qu'historique sur des millions d'années relatives de l'œuvre du dragon durant tout le temps où la civilisation s'y développe et un temps microscopique, quasi-microscopique de quelques mois pour l'espèce humaine qui, la voit se, enfin, qui finit par la voir se développer. Et cette application donc des différentes échelles de temps dues aux différences de physique, bon, Forward est physicien au départ, donc ça se comprend, et c'est très intéressant de voir ce parallèle entre les deux temps qui n'ont absolument pas la même échelle, mais qui finissent par se rejoindre. Et je pense que ça s'applique très bien. C'est une application d'un paradigme scientifique sur ce qui se passe sur une étoile de tronc, ce qui peut s'y passer, à une narration avec des personnages de part et d'autre et les évolutions des personnages. Voilà, c'était cette évocation que je voulais faire.
C'est certainement une œuvre très intéressante. Je dirais que c'est plus quand même une situation motivée par la science qu'un paradigme tout entier. Mais quoi qu'il en soit, on vous laissera y réfléchir. Nous sommes sur la même échelle de temps que tout le reste du festival et nous devons conclure. Donc merci beaucoup pour votre participation et votre écoute.